Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Et on se retrouve dans un tout petit instant, comme tous les vendredis. On va retrouver Gérard Collard pour parler livres et puis le club de la presse Média pour passer les dernières infos médias en revue. Et puis le zapping, évidemment. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 11 septembre. Oui, il y a 19 ans, le 11 septembre, les attentats du 11 septembre. C'est pas notre sujet aujourd'hui. Gilles Gansman, bonjour.
Bonjour madame.
Clémence Duranton, bonjour. Vous êtes journaliste média et culture à Paris Match. Ravie de vous accueillir ce matin. On va évidemment parler de la une de match exclusivité mondiale. On a parlé hier avec Virginie Leguet, interview de Nafissa à tout Diallo. Benjamin Rabier, journaliste à Télé Loisirs, Télé 2 Semaines, bonjour.
Bonjour.
Et nouvelle formule pour Télé Loisirs.
Ouais, on kiosque depuis 2 semaines et des révélations sur Demain nous appartient, un feuilleton qu'on adore à découvrir lundi.
Ah bon, bah alors.
Vous ne pouvez pas nous dire.
Ah non, je vous dis dans quelques minutes.
Dans quelques minutes, voilà. On va parler de Koh-Lanta, évidemment, et de la disparition de Bertrand Kamal. On va revenir sur l'intervention de Nicolas Sarkozy hier à Quotidien. On va parler des audiences des talk-shows et de Hanouna qui est bien à la peine.
Oui, du succès de Grégory Le Marchal.
Grégory Le Marchal qui a très très bien fonctionné. Et puis de ce qu'on pourra regarder la semaine prochaine à la télévision. Gilles, on commence avec le zapping.
Eh ben, on y va.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, hier, Nicolas Sarkozy était l'invité unique de Quotidien sur TMC avec Yann Barthès. Alors, sur le plateau, en voulant parler de la bien-pensance, en mimant, vous savez, le singe de la sagesse, celui qui se cache les yeux, eh bien, il a tenu des propos qui peuvent porter à confusion.
Mais cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes, qui n'écoutent personne, alors, je ne sais plus si on a le droit de dire singe, parce que... On n'a plus le droit de dire on dit quoi, les 10 petits soldats maintenant, c'est ça? Oui. Ça, mais c'est, elle progresse la société. Oui, le livre.
Vous parlez Agatha Christie, d'accord.
Oui, on a plus le droit là maintenant. On a peut-être le droit de dire singe sans insulter personne.
Évidemment, on en reviendra dans le débat avec nos journalistes juste après la pub. Lui qui dénonçait, on ne peut plus rien dire, et bien on a eu la confirmation. Panique à Beyrouth, vous avez vu Valérie, cet incendie qui s'est déclaré sur le port, déjà sinistré et dévasté. Les habitants ont vécu de nouveau l'horreur, ils ont témoigné sur BFM TV.
Les gens ont commencé à courir, on a vu le fumet, on ne savait pas ce qui se passait. J'ai dit aux employés, allez à la maison, évacuez l'emplacement le plus vite possible parce que honnêtement, on n'est pas encore ressorti de ce qu'on a vécu pour rentrer dans ça. On a vu les gens courir avant qu'on voit le fumet, nous. Et le panique des gens nous a fait plus peur honnêtement, on a complètement paniqué.
Pas si bête qu'il en a l'air, Donald Trump connaissait dès février la virulence et le danger du coronavirus. Il a donc seulement menti et minimisé la maladie pour protéger les Américains, c'est sa défense. Voilà ce qu'il racontait début février.
Il se propage dans l'air, Bob. C'est encore pire que de se toucher. C'est très délicat. Tu sais, il est plus dangereux qu'une grosse grippe. C'est meurtrier.
Pourtant, 2 semaines plus tard, devant ses supporters, Donald Trump utilise un ton bien moins alarmiste.
35 000 personnes meurent en moyenne chaque année de la grippe. Vous le saviez ? Ça fait beaucoup. Et nous n'avons perdu personne à cause du coronavirus.
C'était dans le Trésor de France 2. Et puis, alors, vous le savez peut-être, le comédien Jacques Weber a révélé qu'il avait touché, alors écoutez bien Valérie, 450 000 euros pour une journée de tournage d'une publicité, celle de Danacol. Il a d'ailleurs déclaré que c'était un produit de merde, je le cite. Et bien du coup, TPMP, hier, Cyril Hanouna a révélé certains cachets.
Johnny Hallyday, est-ce que vous savez combien il a touché pour Optique 2000 Il a touché, je vous le dis, 5 millions d'euros sur 2 ans.
Ça a rapporté 20% de plus de ventes à la marque pendant les 2 ans.
Bien sûr. Voilà. Combien il a touché Zidane pour Danone?
8 millions.
Bah alors là,
1 million et demi par an sur 11 ans, ce qui fait 16,5 millions d'euros en tout. Ouais. Eh ouais, pour Danone, il en a mangé du yaourt. Combien a touché Jean Reno pour une pub, pour un service de livraison? 1 million d'euros pour une pub seulement.
Ouais.
1 million, une pub, terminé, merci, au revoir, par ici la monnaie, tac tac badaboum.
Valérie, une petite...
Est-ce que ces chiffres, on ne sait pas très bien d'où ils sortent.
Non, c'est vrai. Mais il y avait Capital qui avait fait un dossier à l'époque, je pense qu'ils ont été fouillés là-dedans. Une petite musique qui va tout de suite vous parler. Vous avez reconnu ?
Bah oui.
Chapeau melon, non, vous n'avez pas reconnu les jeunes.
Oui, vraiment, évidemment.
Chapeau melon et bottes de cuir. Hier, on a appris la mort de Diana Rigg, l'actrice qui jouait Emma Peel. Elle est morte à 82 ans. Et pour la nouvelle génération, elle était aussi Lady Tyrell, dans Game of Thrones.
Voilà.
Triste disparition.
Série qui a, en fait, elle a fait que deux saisons de Chapeau melon et bottes de cuir, mais elle est restée la plus emblématique du duo avec John Steed, voilà.
Oui, oui.
Allez, on marque une petite pause et on revient pour évoquer les sujets qui font l'actualité média, la disparition de Bertrand Kamal. Est-ce que TF1 a annoncé continuer à diffuser le jeu?
Et donc, c'est notre question du jour, Valérie, sur Twitter. Est-ce que vous pensez que TF1 doit continuer à diffuser Koh-Lanta après la mort d'un candidat? Vous dites oui à 70% pour le moment et non à 30%. Vous pouvez aller voter sur le Twitter du Sud Radio et puis nous donner votre avis. On lira vos réactions à l'antenne.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour l'émission Média du vendredi à 11h moins le quart. Gérard Collard sera là pour parler livres parce qu'il n'y a pas que la télé dans la vie. On est avec Benjamin Rabier, journaliste à Télé Loisirs et Télé Deux Semaines, et Clémence Duranton, journaliste média et culture à Paris Match. Koh-Lanta, donc, on va évoquer les différents thèmes médias de la semaine. Koh-Lanta qui fait face à la disparition d'un candidat, Bertrand Kamal, dont on a appris le décès hier, aventurier emblématique de la nouvelle saison de Koh-Lanta, et effectivement TF1 a annoncé continuer à diffuser toute la saison qui a démarré la semaine dernière. Donc Benjamin Rabier, vous suivez particulièrement Koh-Lanta pour Télé Loisirs. Ça vous paraît, j'imagine que ça a dû être discuté avec lui avant son décès.
Bien sûr, ça fait plusieurs mois que la production sait que Bertrand Kamal souffrait d'un cancer. Ils sont revenus en décembre 2019 et il a été déclaré le diagnostic est tombé en mars, donc il parlait avec la production. On sait qu'il est très proche de Denis Brognard, avec les parents de Bertrand Kamal, et il avait fait savoir que c'était son rêve de participer à Koh-Lanta, qu'il avait vécu une aventure au-delà de son rêve et qu'il voulait que la diffusion de l'émission se poursuive s'il lui arrivait quelque chose de grave, ce qui est arrivé mercredi soir.
Ouais. Clémence, pour vous, c'est une bonne chose que TF1 continue à diffuser?
Moi, je pense que si lui, il a donné cette volonté de continuer, de continuer la diffusion, c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire qu'on suit les dernières volontés de quelqu'un. Ouais. Après, il faut voir aussi en fonction de la famille, parce que pour eux, c'est très difficile aussi, je suppose. S'ils ne sont pas d'accord, ça peut être compliqué. Ouais.
Et puis, de voir comment il poursuit dans les épreuves, parce que c'est une émission quand même où on critique, où on dit des choses un peu sur les candidats parce qu'ils sont en vase clos, donc ça renforce un peu les haines et les amitiés. Donc faut voir aussi ce qu'on va dire alors que la personne est morte. Et ça, je pense que la famille, parce qu'en fait comme ça a été monté durant le Covid, le montage a été fait vraiment chez des monteurs qui étaient chez eux et pas dans la société de production d'Adventure Line. Donc je pense qu'ils n'ont pas pu voir les épisodes, il n'y a que Denis Brognard et certains monteurs qui savent vraiment ce qui lui arrive.
Mais d'après vous, il est assez présent, en tout cas dans
bien
les
sûr, moi, dans je, moi je travaille sur Koh-Lanta cette saison, je peux vous dire que j'ai vu l'épisode de ce soir et celui de la semaine prochaine, sans révéler ce qui se passe. Et vous allez le voir, on le voit énormément, c'est vraiment le candidat qui se détache, en plus il est lumineux, il est rigolo. Dans Koh-Lanta, c'est rare d'avoir un perso aussi fort. Pour revenir sur ses parents, évidemment ils ont donné l'accord pour la diffusion, d'ailleurs dans le communiqué.
Ça veut dire qu'au moment du montage, ils savaient qu'il était malade alors, ça veut dire qu'ils ont quand même appuyé. Donc ça veut dire que durant le montage, ils ont appuyé sur des épisodes, sachant qu'il était malade. Ils ne le savaient pas quand ils ont tourné, mais si vous nous dites qu'il est très présent dans les épisodes, ça veut dire que quand vous faites le montage, vous êtes conscient de ce que vous montez.
Mais ils ont aussi monté en se disant, et il y a Denis Brognard qui parle dans Le Parisien, et il dit que Bertrand Kamal lui avait dit « je serai là pour la finale en plateau, en direct sur TF1 ». Ben, malheureusement, il ne le sera pas. Ouais. Mais Bertrand Kamal est un personnage fort de cette saison. Il y a 24 aventuriers. À la fin, on n'en retiendra que 3. Évidemment, lui, il marquera la saison. Dorénavant, il n'y a plus de doute. Maintenant, pour TF1, il y a d'autres problématiques qui viennent en compte. On sait que Koh-Lanta, c'est l'émission la plus tweetée en France et que ça peut être très virulent. Et c'est ça, en fait, c'est la suite de cette saison de Koh-Lanta qui va être difficile à gérer pour TF1. On sait que sur la saison dernière, pendant le confinement, ALP a saisi la justice parce que certains aventuriers avaient reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Comment TF1 va gérer les candidats qui vont critiquer Bertrand Kamal Bertrand Kamal face caméra. Et comment TF1 va gérer les réseaux sociaux, c'est la grosse problématique de cette saison qui, à partir de ce soir, est forcément à part.
Et moi, je pense, pour répondre à la question qu'on pose sur Twitter à nos auditeurs, est-ce que TF1 doit-elle continuer à diffuser Koh-Lanta après la mort d'un candidat? Alors moi, je pense qu'ils doivent continuer, mais ça aurait été quand même assez classe d'avoir un vendredi sans émission, juste pour faire le deuil, juste pour un clin d'œil, de dire, voilà, ce vendredi, on va vous diffuser un téléfilm, on va laisser passer, vous allez retrouver Koh-Lanta la semaine prochaine, mais pas comme ça à chaud, pas le lendemain. Ça s'appelle faire le deuil, non?
Oui, bah exactement, moi je suis tout à fait d'accord, et c'est vrai que les gens, ce que reprochent beaucoup à la télé en général, c'est-à-dire vouloir faire du fric et du buzz à tout prix, tout ce qu'on entend tout le temps, bah là, c'est vrai que ça corrobore un petit peu ça. Alors oui, TF1, ils ont perdu beaucoup d'argent ces derniers mois avec le confinement, ça a été très compliqué, même s'il y a eu des grosses audiences, pas de pub, donc pas d'argent. Là, bon, c'est vrai que c'est un peu moyen. Moi, je suis d'accord sur une pause, ça aurait été nécessaire.
Ouais, alors Brigitte nous dit que ça peut être dur pour la famille, ou au contraire, le revoir sur les écrans peut aussi être bien. Chaque être humain ressent différemment le deuil. C'est une saison qui est annoncée comme étant une saison très, très forte de Koh-Lanta. Clémence, vous avez eu aussi des informations sur ce sujet-là.
Oui, c'est vrai que TF1 est très, très content de la saison. Ils étaient très contents du casting, d'ailleurs, avant que ça commence. Nous, ils nous avaient dit, on est très contents parce que c'est vrai qu'on a eu une saison avec Claude qui s'est terminée en apothéose, qui avait été incroyable, que les gens ont suivi et ont adoré. Et là, ils disaient que la nouvelle saison était aussi bien que la précédente, voire mieux. Et donc, ils sont contents parce que les gens sont revenus sur le programme grâce au confinement.
Vous savez, Benjamin, s'il y a eu du remontage ou pas des émissions ou pas.
C'est là toute la question. TF1 et LP assurent que non, toute la saison a été livrée à TF1. C'est chez TF1. Ils assurent qu'ils ne toucheront pas à la saison.
Ni aux commentaires.
Ni aux commentaires. On sait que face caméra, les aventuriers peuvent dire des crasses sur les uns et sur les autres. Je pense que ce soir, ça va être un test. Je pense que ce soir, TF1 va regarder les réseaux sociaux, voir comment ça réagit. Pour l'instant, il y a pas d'intrigue sur Bertrand. Enfin, il y a pas de stratégie contre Bertrand Kamal. Donc, il y a ce soir, a priori, il y aura rien de mal sur lui. Faut voir les prochains épisodes. Ça m'étonnerait pas que TF1 gomme certaines petites séquences. Je dis pas de gommer Bertrand Kamal à l'antenne, mais peut-être certaines séquences où des aventuriers vont le critiquer. Difficilement diffusable à l'antenne en ce moment.
On a un auditeur qui nous dit « Je ne regarde pas plus depuis très longtemps, je ne connaissais pas le candidat, mais je crois que Brognard porte la poisse. » Bon, c'est vrai qu'il y a deux morts dans
malheureusement
dans
pour
un
ce
jeu,
programme, c'est terrible à dire, mais oui, on a l'impression que c'est le programme maudit. Il y a eu un mort, Gérald de Babin, l'émission s'est arrêtée il y a deux ou trois saisons, je ne me rappelle plus, parce qu'il y avait une agression sexuelle, une supposée agression sexuelle, le médecin s'est suicidé, c'est vraiment c'est la loi des séries, malheureusement. Après, c'est la vie, malheureusement. Ouais. Le cancer,
mais c'est
ça
vrai que ça touche cette émission-là plus particulièrement. Il a pas, il a ses raisons, notre auditeur. Parlons de Nicolas Sarkozy hier soir à Koh-Lanta, donc c'est à quotidien.
À Koh-Lanta, il serait pas mal à Koh-Lanta.
C'est un joli
lapsus. Je pense que ce serait un bon client.
Il ferait des crasses.
Hier, il avait l'énergie, en tout cas. Nous, on va revenir sur le fond, sur cette petite phrase qui a été relevée, que vous nous avez diffusée. Mais sur la forme de l'émission, peut-être...
Pour lancer le débat, j'ai trouvé que c'était une masterclass. Trouvé qu'ils étaient tous bien sages, qu'ils l'écoutaient, qu'il était là, il délivrait son message, il donnait des petits conseils, il faisait une blague, il les taclait de temps en temps. Bref, c'était le show Sarkozy, c'était une masterclass. C'était pas du tout ni un débat, ni une émission de télé.
Non.
C'est vrai qu'en temps normal, sur l'émission, quand il y a un invité qui arrive, il donne un peu de temps, ils font une interview, ils le font bien. Mais là, c'est vrai que c'était une émission spéciale, Nicolas Sarkozy. Absolument. Donc forcément, c'est vrai que ça a fait un peu beaucoup. Et moi, je suis d'accord, le côté masterclass, conférence...
C'est-à-dire qu'ils étaient un peu comme des enfants devant lui, les yeux au grand ouvert, au champ de la tête. Et même sur l'histoire des dix petits nègres, ils ne l'ont pas du tout repris. Ils auraient pu lui faire préciser sa pensée, parce que bon, nous on en redébattra à 11h, mais moi j'ai vu l'émission, il s'enfonçait, Nicolas Sarkozy, il se rendait compte qu'il était en train de faire un parallèle, on comprend ce qu'il voulait dire, mais au résultat c'est tragique pour lui.
Après on en parlait en coulisses avant que l'émission commence, quand on est en direct c'est très difficile à réagir à une polémique naissante. Eux, je pense qu'ils se sont dit où il va dans son explication, ouais. parce qu'on voit bien que la séquence elle est un peu lunaire. Ouais. Il se perd, on sent qu'il y a, en fait il se relâche.
Enfin, le rôle de l'animateur normalement c'est de
récupérer
un peu.
En direct
le...
c'est difficile de réagir à des polémiques.
Non,
justement,
c'est un
il y a
boulot, c'est un
polémiques.
Métier animateur de télé.
Enfin, ah, bien sûr.
Yann Barthès a du métier, c'est pas ce que je veux dire. Mais quand même, enfin on essaye. Alors oui, c'est très difficile. Je la dernière à lui jeter la pierre parce qu'on laisse passer des choses, mais là c'est vrai que toute la séquence était pratiquement. Alors il est difficile à interrompre. J'aimerais pas être en face de lui, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à interrompre. Hein.
Moi, ce qui me surprend quand même dans une émission de quotidien qui a quand même été longtemps contre Sarkozy, avec, vous savez, ce qu'on appelle les synthés en télévision, les petites phrases qui sont en surimpression, les différentes phrases sur Carla et autres. C'est-à-dire qu'ils ont, dans les magnétos, ils tapaient très souvent sur Nicolas Sarkozy. Là, ils l'ont en face. Et donc, ils pouvaient revenir, tacler sur plein de choses. Ouais. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est ça qui est quand même incroyable sur une émission de quotidien qui critique énormément les politiques. Et là, on avait l'impression d'avoir des petits-enfants qui étaient contents de recevoir un ancien président de la République.
Ça a très bien marché, hein, plus d'1,8 million.
Ils ont fait leur record d'audience de la saison. Ça a repris à 10 jours, mais ça reste une des meilleures audiences de quotidien de cette année. Ouais. Donc, pour eux, c'est tout bénef. On va parler de la rentrée des talk-shows peut-être après. Honnêtement, quotidien fait une rentrée assez exceptionnelle. Tout se passe dans quotidien. Ouais. TPMP a totalement été lâché. C'est à vous, on en parle beaucoup moins. Quotidien, il y a eu la polémique Marina Foïs. Les invités vont chez quotidien aujourd'hui.
Ouais, absolument, c'est vrai. Parlons de Grégory Lemarchal. Donc carton absolu, Clémence Duranton pour le biopic sur Grégory Lemarchal. C'était attendu, mais à ce point-là, peut-être pas autant.
Mais je crois que de ce que j'ai compris, en tout cas TF1 était assez surpris quand même. Oui, ils savaient que ça marcherait, mais alors à ce point-là, 7,3 millions de téléspectateurs, c'est énorme. Et aujourd'hui, on parlait de Koh-Lanta tout à l'heure. Koh-Lanta, quand ils font 5,5 millions, ils trouvent ça extraordinaire. Ouais. 7,3 millions, c'est exceptionnel. Ouais. Aujourd'hui, ça ne se fait plus en télévision. Enfin, c'est très rare.
Sur 50% sur la ménagère, et je crois qu'il n'y a que les enfoirés qui font ça aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. Ouais. Après, il y a eu un plan de communication
qui était assez
exceptionnel. Il était partout. Enfin, il était l'acteur, évidemment.
L'acteur a été partout.
Mais
on
l'a vu partout. Quoi.
Ouais, mais c'est pas forcément ce qui fait que ça marche. Et un mot quand même sur Apprendre à t'aimer aussi sur M6, le téléfilm sur la trisomie 21 avec Harry Habitant.
Harry Habitant
et Julie de Bonnat, qui là aussi a fait un carton d'audience. Et franchement, moi, je trouvais... Enfin, le film est formidable, mais très difficile et très dur à regarder. Ça a très bien marché.
Je pense que les gens, ils ont envie d'être émus devant leur télévision. Ils en ont marre des petits téléfilms assez légers comme Camping Paradis ou Joséphine Ange Gardien. Ils ont envie de voir des fictions pas choc, parce que c'est pas... Je dirais pas que Grégory Lemarchal, c'est une fiction choc, mais ils ont envie d'être émus, de ressentir des choses devant leur télévision. Et les deux fictions, là, le prouvent en audience.
Je sais pas ce que vous en pensez, après
la diffusion.
Moi, j'ai trouvé que c'était pas un biopic sur Grégory Lemarchal, mais un biopic sur les parents. Donc j'ai découvert la vie, les parents, leur relation, la naissance d'un enfant un peu différent. Ça aurait pu être une autre maladie, comment ils le gèrent. Mais on n'a pas l'histoire de Grégory Lemarchal, on n'a pas ses sentiments, on n'a pas son ambition qui est peut-être dévorante, on n'a pas ses rapports quand on lui dit une chanson en disant « je veux pas chanter ça ». Enfin, il n'y a rien sur Grégory Lemarchal, il y a tout sur les parents. Moi j'ai trouvé que c'était un magnifique biopic sur des parents qui ont un enfant différent. C'était formidable. Hein.
Ouais. Alors après, je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Grégory Lemarchal, il est mort très jeune. Et que, donc forcément, faire un biopic sur quelqu'un qui meurt à même pas 30 ans, forcément, il n'y a pas beaucoup de choses à raconter. Et je pense qu'en effet, l'histoire est racontée par les vivants et c'est ses parents qui ont partagé l'histoire. Ouais. Donc, moi, je les ai trouvés touchants. Je trouve qu'en plus, les acteurs sont excellents et qu'ils ont fait un super
très, très bon casting.
Il y a un très bon casting là-dessus. Après, effectivement, c'est vrai que Grégory Lemarchal, on n'a pas l'impression de mieux le connaître après le biopic. Mais ça reste un biopic et pas un documentaire.
Ouais. Et il faut savoir que le biopic est né de livres que sa mère et sa sœur avaient écrits. Donc ils ont repris l'histoire qu'elles avaient écrite toutes les deux. Après, moi, j'ai été déçu, franchement, sur la forme du téléfilm. Je trouve que c'est pour un téléfilm événement, TF1 savait très bien que ça allait marcher. 7 millions, évidemment, personne ne pouvait s'y attendre. Mais tout le monde pensait 5-6 millions. Ouais. Sur la forme, c'est quand même pas très... c'est pas très quali, quoi, franchement, soyez honnête. Après, sur l'émotion, bien sûr, c'était parfait. Mais si on était fan de Grégory Lemarchal, on n'a absolument rien appris dans ce biopic, soyez honnête. Moi, j'aurais Après, ouais. c'est tragique à dire, mais j'aurais peut-être essayé de faire un 6 fois 52 minutes pour étaler.
Ouais,
par exemple, la Star
ça,
Academy, ouais. c'est vraiment 10 minutes dans l'épisode. Ouais.
Et c'est ce qui est le plus fort, d'ailleurs. C'est le démarrage qui était assez, assez saisissant.
Et c'est ce qu'on attend, d'ailleurs.
C'est ce qu'on attend, absolument. Et c'est ce que les candidats qui étaient avec lui ont reproché, d'ailleurs, disant on n'a pas du tout reconnu ce qu'on a vécu. Et Grégory parlait très peu de sa maladie. Donc, évidemment, il fallait faire un peu de drama pour la fiction. Retour donc des talk-shows depuis une dizaine de jours, vous l'avez dit. Cyril Hanouna à la peine hein, dans ses audiences. Il a déjà modifié trois fois cette semaine sa tranche, cette fameuse tranche entre 18h15 et 21h15. Benjamin Rabier.
C'est compliqué, je pense que les gens ils s'y retrouvent plus en fait. Là, les gens ils comprennent pas. Balance ton poste à 18h. TPMP, apprendre ou à laisser. Là, on rechange tout. Le jeudi soir, il y a balance ton poste en direct à 22h. Les gens, je pense qu'ils ne comprennent plus rien. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une lassitude de Cyril Hanouna partout sur C8. Les gens, voilà, ça fait 10 ans, ça fait plus de
11 ans.
11 ans, TPMP, voilà. Ça a du mal à se renouveler. Par exemple, voilà, hier, ils ont fait le débat sur Koh-Lanta. Ouais. On sait déjà ce que les chroniqueurs vont dire avant même le débat. On sait que Gilles Verdez va être contre TF1, que Valérie Benaim va défendre TF1, enfin, pas forcément TF1, mais défendre le débat. Voilà, je trouve qu'il n'y a plus de surprises, en tout cas, dans TPMP. Ouais. Et c'est le problème. Après, chaque année, les audiences en début de saison, elles sont toujours un peu flottantes. Avec le changement d'hiver, il arrive à se rattraper. Là, c'est sûr que cette année, en faisant 800 000 téléspectateurs, et par exemple, hier soir, sur un débat aussi fort que Koh-Lanta, on peut être inquiet.
Oui, les audios, Clémence Duranton sur la difficulté de Cyril Hanouna, qui a donc, on le dit, inversé le jeu apprendre ou à laisser. qui est passé avant. Ensuite, il a supprimé Balance ton poste pour le remettre le jeudi soir en deuxième partie de soirée, où ça a fait 450 000 téléspectateurs. Votre analyse, Clémence Duranton,
Moi, je pense que l'erreur a été de ne pas reprendre TPMP après le confinement. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu laisser apprendre ou à laisser les audiences. C'était très bonne par ailleurs, ça a très bien marché. Mais il aurait peut-être dû reprendre TPMP. On l'avait prévenu, je pense qu'il le savait, sauf qu'il voulait il avait dit que c'est une belle émission, il voulait la reprendre correctement, il voulait que ce soit un beau format, avec des gens autour de la table, il voulait pas être tout seul en plateau, il voulait du public. Et du coup, cette exigence, je pense qu'il la paye aujourd'hui.
Là, le public, il apporte pas grand-chose. Hein. On voit les masques transparents, on les voit pas bouger, on voit pas les réactions.
Les audiences d'hier soir de TPMP, c'est dans les 700 000, c'est
800 000,
ça
800 000 pour la deuxième partie.
Ce qui est très bas.
Ce qui est très bas,
puisqu'il était au-dessus des 1 million.
Il y a 1 million de plus chez Quotidien, quand même.
La différence est d'un million, en effet.
La différence est énorme.
Le match, on a beaucoup parlé du match Quotidien TPMP. Aujourd'hui, il n'y a plus de match, c'est fini.
Non, et Quotidien est très très haut depuis le début de...
Le confinement, ils ont gagné. En fait, le confinement a boosté Quotidien parce que les gens, ils y sont retrouvés. Il y avait des bonnes interviews. C'était le rendez-vous du soir, un peu divertissant et en même temps informatif. Ils ont gagné des téléspectateurs pendant le confinement. Ils les ont gardés en cette rentrée.
Et puis, pour rebondir sur ce que dit Benjamin Rabier, c'est aussi la communication, Valérie, puisqu'on s'en est parlé même tous les deux. On peut pas dire et faire une vidéo sur Twitter, les chéris, vous nous avez demandé que touche pas à mon poste soit plus long. On accède à votre demande. C'est pas lié.
L'explication, c'est pas l'audience, c'est pas une question d'audience, c'est la demande des téléspectateurs.
Oui, c'est ça.
Non, et la première explication du week-end dernier,
c'était les studios
à désinfecter, alors que hier soir, il y a eu le changement TPMP balance ton poste en 5 minutes et que là, en termes de désinfection, ça n'a rien changé.
Ça vient de démarrer avec le changement d'heure, les audiences vont certainement monter.
On peut dire ça marche pas, on va améliorer des choses. On n'est pas obligé de dire, vous nous avez tellement réclamé que touche pas à mon poste soit très long, que j'ai accédé à votre demande.
C'est bizarre quand en termes de crise, enfin en moment de crise, la com ne dise pas oui, on s'est trompé, on revient en arrière, c'est pas très grave. En plus, les fanzous, les fidèles de TPMP, ils s'en fichent de savoir qu'ils se sont trompés, ils accepteront de revoir TPMP à 19h.
Bien sûr. Alors, l'info ou le scoop que vous nous avez apporté chacun. Clémence, votre info exclusive. Alors, Sud Radio.
Pas exclusive.
Je vous mets la pression.
pas réellement, mais je pense que c'est bien de parler de Canal+, qui a commencé le tournage de la saison 2 de Validé, qui était donc la série de Franck Gastambide qui a été diffusée pendant le confinement. Il a eu de la chance en termes de timing, puisque c'est le moment où Canal est passé en gratuit. Donc ils ont fait des records sur le stream. Ça a extrêmement bien marché, puisqu'il y a eu 10 millions de stream
c'est énorme.
Une semaine.
C'est énorme.
Une semaine. Donc ouais. Ça a extrêmement bien marché sur en plus un thème qui n'est pas du tout exploité, qui est le thème de l'urbain et du rap à la télé. Donc là, il commence une saison 2 en fanfare qui devrait être diffusée en 2021. La grosse nouveauté étant qu'il a pris une héroïne. Ah. Ça, c'est intéressant parce que dans le milieu du rap, des filles, il n'y en a pas beaucoup.
Si, sur les voitures à poil.
Oh, oh, ce cliché, ce cliché.
Bah, vous dites qu'il n'y a pas de filles.
C'est cliché, mais c'est la, oui, c'est oui, la réalité.
Oui, voilà. Bon, alors voilà. En tout cas, voilà. Et oui, donc, il a pris
une héroïne.
Il a pris une héroïne qui est inconnue, comme il avait fait. Enfin, après, il avait pris Attic pour la première saison qui était quand même un petit peu connue, mais bon, c'était pas non plus. Mais il est reparti en musique de toute façon, ouais. Et donc là, il prend une jeune femme, ouais. Laetitia Carfa, qui a 26 ans et qui est encore très oui, très
pas,
peu connue,
du, pas très connue
du public. Et donc, il tourne à Marseille en ce moment même.
Ah oui, validé, donc 10 millions de connexions, enfin de streaming. C'est,
ouais.
C'est
en
énorme.
Une semaine, ouais, c'est en une semaine, au moment où Canal passe en gratuit, il arrive au même moment, ouais. Et le timing est parfait.
Benjamin Rabier.
Nous, c'est à lire dans Télé Loisirs lundi, donc je vous le dis un peu en avant, c'est Laurent Ruquier qui nous dévoile en exclusivité le concept de sa nouvelle émission qui va remplacer.
Parce qu'on attendait,
on
n'est
pas
couché,
on l'attend, ça arrive le 26 septembre sur France 2. Fini les chroniqueurs, fini les fauteuils, il va être en mouvement, Laurent Ruquier, je peux vous le dire, puisque en fait, il va se promener sur plusieurs plateaux.
Ça va être un peu droit de réponse où il y avait il y avait des tables, Pollack bougeait pas, mais il y avait plusieurs tables.
Ça va être plus ambiance,
plusieurs
un peu bar, club le soir parisien. Il y aura une trentaine d'invités, donc ça va être pour moi, c'est la gestion va être compliquée.
30 invités en une heure et demie, c'est 30 ça
invités avec le Covid.
Ah bah ça oui, ça faudra lui demander. Après il va se promener dans plusieurs plateaux, donc j'imagine qu'il y aura quand même une distanciation des invités. Mais voilà, ce sera en direct, donc c'est la grosse nouveauté, parce qu'on a souvent reproché à On n'est pas couché de pas être en direct. Bon là ça s'appelle On est en direct, donc évidemment il est obligé. Mais voilà, il va se promener sur plusieurs plateaux, ambiance bar, il y aura un piano, voilà c'est.
Et il y a plus les snipers.
Et il y a plus les snipers.
Ouais,
donc c'est lui qui va porter
l'émission. 30 invités par semaine, oui, c'est
énorme.
Va aller très vite.
Et ça va être multi-sujet, c'est-à-dire de l'inconnu qui a fait l'actualité à
très
la
culturel,
politique,
ouais. Très culturel très quand même, mais ça n'interdit pas de faire de l'info, évidemment, quand l'actu et les invités voudront venir, mais ça sera beaucoup plus porté sur la culture.
Voilà, Gilles aussi, vous avez un petit scoop.
Non, je vais vous laisser comme il est un peu tard.
On va sur les conseils à regarder. Alors, Clémence. Le Paris Match conseil, vous avez cette semaine, à lire dans Paris Match un article sur Dupont de Ligonnès et en particulier cette interview que vous avez faite de
Arnaud Ducret.
Voilà, je sais pas pourquoi en fait on les a fait ensemble, Arnaud Ducret et Ariel Halimi, et bref, allez-y.
Alors oui, c'est vrai que M6 diffuse dès mardi Un homme ordinaire, donc qui est une saison, une série en 4 épisodes sur Xavier Dupont de Ligonnès. Officiellement, il s'appelle Christophe de Salins. Ouais. Il ressemble de façon assez incroyable. C'est vrai que Ducret, on lui avait dit à plusieurs reprises qu'il lui ressemblait beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur ne voulait pas de Ducret au début parce qu'il avait dit non, c'est un comique, qu'est-ce que je vais en faire, ça va pas, ça va être. Les gens ne vont pas y croire. Et en réalité, il se perd complètement derrière le personnage, on l'oublie complètement et il est incroyable, il est glaçant, c'est fou et c'est...
Mais vous êtes comme moi, vous avez trouvé que Émilie Dequesne qui est une enquêtrice,
le fil rouge,
elle est un peu en dessous.
Qu'elle est un peu en dessous. C'est un petit peu dommage parce que c'est elle, donc elle joue une hackeuse qui aide la police et elle est un peu en dessous du reste du casting. Les deux Ligonnès, sont excellents. Mais du coup, elle, qui est le personnage principal, en fait, est quand même un peu moins bonne que le reste du casting. Et ça ruine un petit peu la série, même s'il y a quand même de très bonnes choses aussi dedans.
Je pense que ça va fonctionner, non? Vous voulez parier sur...
C'est mardi soir.
Vous pensez qu'ils vont, faire une grosse audience?
Suite à ce qui s'est passé à l'été, tout le monde en a parlé. Je pense que les gens vont avoir envie de le voir et que M6 peut faire de très très bons chiffres là-dessus. Alors, c'est pas TF1, donc en général, ils sont quand même... en dessous, mais à mon avis, on peut être bien là.
Oui, Benjamin, vous, c'est bah
justement
vous
moi, c'est mardi soir aussi, donc je pense que vraiment, même si c'est une carte à jouer, moi, c'est la, parce que c'est le final de la saison 1 de Big Little Lies qui a pas rencontré son public sur TF1 parce que c'est quand même une série assez exigeante. Ouais. Mais vraiment, c'est un bijou.
Vous êtes en train de dire que les téléspectateurs de TF1 sont pas exigeants?
Si je dis de passer de Camping Paradis à Big Little Lies, je comprends qu'ils aient pu être désarçonnés. Ouais.
Puis surtout, c'est une série que les gens ont beaucoup vue déjà,
bien sûr.
Déjà, donc c'est vrai qu'il y aura peut-être c'est un bon débat de savoir.
Il y a
savoir,
une carte à jouer pour M6, bien sûr, parce que les dernières audiences, ils étaient à 3 millions Big Little Lies, pour TF1 est très faible. Et en tout cas, voilà, et à 23h, ils enchaînent avec la saison 2 ou avec l'arrivée de Meryl Streep, qui est assez exceptionnelle dans
exceptionnel la série. Exceptionnelle dans la série 2, formidable. Moi, j'ai adoré cette série, Gilles.
Oui, et puis rapidement, vous avez un documentaire assez exceptionnel sur le pilote de F1, Michael Schumacher, une vraie enquête qui va être diffusée le mercredi 16 sur RMC Story. Voilà, regardez. Bon,
et la réponse à la question
La réponse à la question Twitter. Est-ce que TF1 a raison de diffuser Koh-Lanta ce soir après la mort d'un candidat? Eh bien oui à 65%, non à 35%. Voilà pour le résultat de notre sondage sur Twitter.
Merci à tous les deux. Donc Benjamin Rabier, la nouvelle formule de Télé-Loisirs avec donc une interview exclusive de Laurent Ruquier. Et puis vous nous avez dit quoi? Des révélations?
Des révélations sur la nouvelle grosse intrigue de Demain nous appartient qui commence la semaine prochaine sur TF1.
Donc à découvrir. Et puis Nafissa Diallo, interview à la une de Paris
Match.
Exclusivité mondiale. Bah oui, c'est une exclusivité. Non mais c'est
on
vrai
peut
en
dire,
plus.
On peut le dire, c'est très bizarre à dire, mais oui, on peut le dire.
C'est-à-dire que
mondiale.
Oui, effectivement, il y a plein de journalistes.
Non, là, pour non une, c'est vrai, on a tendance à dire exclu pour tout et n'importe quoi.
Voilà. Merci à vous, merci Clément Duranteau, merci Benjamin Rabier, merci à vous. Et dans un instant, on se retrouve avec Gérard Collard. On va parler livres, à tout de suite.